Et vous êtes originaire de...
Donc, je suis de la région, je suis de Sologne, 40 km. Seulement, j'ai fait mes études à Blois, ensuite à Paris. Et je suis venue à Paris, Orléans, il y a 4 ans à peu près.
4 ans. Mmh. Et vous plaisez à Orléans ?
C'est-à-dire que je travaille beaucoup. Mmh. Alors mon temps est très pris par le travail. Mmh. Puis quand même, si j'ai quelques amis, enfin... Mmh.
Et vous vous plaisez alors ?
Oui.
Parce que mademoiselle, j'ai l'impression que ça ne l'est... Enfin, elle n'aime pas tellement Orléans.
Elle vient d'une ville qui est très très agréable, Tours, où elle avait beaucoup d'amis, etc. Alors, c'est vrai qu'Orléans, c'est très difficile de s'insérer quelque part, dans un groupe, enfin...
Je crois que ça en joue. Et est-ce que vous comptez rester à Orléans plus tard?
Actuellement, oui. Enfin, j'ai pas d'autres projets. Je pense rester. Je pense rester ici. Enfin. Mmh.
Mais si vous vouliez partir, est-ce qu'il y aurait d'autres centres, par exemple, comme celui d'Orléans?
Oui, il y en a beaucoup.
Oui.
Et c'est... Il y a beaucoup de possibilités de travail pour nous. Hein. Mmh.
Mais dans et est-ce qu'il y a un centre par académie ou par grand par département ou comment est-ce que
c'est pas divisé comme ça, mais en général par département il y a un centre.
Par département.
Qui ne dépend pas forcément du CREA et du même organisme dont on dépend ici. Mm-hmm. Mais il y en a plusieurs, enfin ou même un ou deux ou trois par ville souvent, hein, par ville importante.
Uh-huh. Mm. Alors, c'est... Mm. Et ça existe, enfin le genre de centre médico-psychopédagogique, ça existe. Depuis longtemps, est-ce que c'est une...
Non, c'est assez récent, je pense.
C'est assez récent.
Enfin, à Paris, bien sûr, il y a le centre Claude Bernard, il y a le centre Binet dans le 13e, qui existe depuis assez longtemps. Mm-hmm. Mais en France, il y a quand même, il y en avait assez peu. C'est depuis, je pense, une dizaine d'années que ça s'est mis, ça s'est organisé.
Ça s'est organisé vraiment, oui. Et qu'est-ce que vous faites exactement comme travail?
Alors moi, je suis orthophoniste. Je m'occupe de rééducation du langage. Enfin, c'est très très varié parce qu'il y a aussi bien tous les troubles oraux, les troubles écrits, enfin, les troubles oraux, c'est-à-dire troubles d'articulation pure chez les enfants ou même chez les adolescents et chez les adultes. Il y a les troubles du langage chez les enfants qui sont plus ou moins perturbés ou sans perturbation quelquefois, mais simplement qui ont une mauvaise construction syntaxique de la phrase, mauvaise élaboration, etc. Je m'occupe également des enfants qui ont des difficultés pour apprendre à lire du fait de mauvaises perceptions, du rythme, de l'espace, du temps, etc. Donc ils apprennent mal à lire. Alors avec une méthode phonético-gestuelle, on leur apprend assez rapidement à lire.
Oui, oui.
Et puis je m'occupe aussi des troubles de l'orthographe chez ces mêmes enfants en général. Hein. De troubles d'orthographe venant également de troubles de perception.
Mmh. Oui, et enfin, ça m'intéresse beaucoup parce que je fais des études de phonétique. Mm-hmm. Comment est-ce que vous procédez pour corriger, par exemple? Est-ce que c'est de... Alors, maintenant, thérapie de la parole ou est-ce qu'il y a une sorte de...
Enfin, au point de phonétique pure, c'est assez simple, c'est vraiment très mécanique. Par exemple, un enfant qui ne prononce pas les che, bon, on apprend que le che se prononce en mettant les lèvres en avant, en mettant la langue au palais, en la poussant un tout petit peu, enfin, ce qu'on apprend tout à fait en phonétique. Je lui mets un guide-langue dans la bouche, je le fais souffler, je lui appuie sur les joues et je lui fais dire un che, enfin... C'est vraiment, tous les troubles d'articulation sont phonétiques, enfin, sont rééduqués de manière très technique, enfin, avec des guides-langues, avec les doigts, avec le souffle, avec les sensations. Avec...
Et vous avez des guides-langues, c'est comment ça des...
Oui, je vous montre.
Enfin, vous en avez là?
Oui, oui. Enfin. Je travaille ici aussi.
Ah oui, d'accord, oui.
Bon, par exemple, pour faire dire un A, la langue bien plate, j'appuie sur la langue avec ça. Faire dire le che, par exemple, je pousse la langue avec ça. Pour faire dire un S, je lui mets juste sur la pointe de la langue, parce que c'est des mouvements très fins. Enfin, il n'y a pas un guide-langue pour chaque tour d'articulation. Hein. Avec un guide-langue, on peut très bien se débrouiller.
Oui.
Mais enfin, quelquefois, c'est plus pratique d'avoir plusieurs formes de guide-langue. Oui. Bon, ben, y a tout cela. Il y en a énormément, mais...
Oui.
C'est pas très utile de tous les avoir. Bon, j'ai une glace aussi, par exemple, pour tout ce qui est les consonnes, les voyelles nasales, pour leur apprendre à souffler par le nez, ou les consonnes nasales également, ouais, pour leur montrer que le souffle passe par le nez, enfin, comme ça. Ouais. Parce que je fais aussi des rééducations de division palatine.
Division palatine, les enfants
qu'on a opérés du palais, mmh, et qui parlent très mal, puisque leur voile n'est pas mobile. Mmh. Donc ils souffrent énormément par le nez, souvent ils n'ont pas de consonne, ils n'ont pas de bonne articulation de langue. Là on leur apprend. Mmh. Articuler par la bouche, par le nez, on fait des mouvements de voile, enfin, pas d'exercice de souffle.
Mmh. Est-ce que vous avez jamais appris à quelqu'un comme qui s'était fait opérer de...
Oui, alors également, si on peut s'occuper des laryngectomisés, oui.
Oui. Et c'est des personnes qui doivent... parler avec de l'air de l'estomac.
Voilà, c'est ça. Oui. Oui.
C'est très difficile.
C'est difficile parce que moralement, ils sont quand même très éprouvés. Hein, oui. Pour enlever quelque chose. Bon, ensuite, ils sont très dépendants de leur famille, de leur entourage. Ensuite, ils ont quand même été très malades. Hein. Mm. Donc, puis ils savent en général ce qu'ils ont eu, enfin pourquoi ils ont été opérés. Mm. Alors, ceux qui veulent se faire rééduquer, ça peut très bien marcher. Mais il faut aussi des conditions anatomiques bonnes, c'est-à-dire s'ils sont grands, minces, avec une bonne paroi abdominale, avec des bons muscles, ça marche très bien, parce que c'est difficile d'y recruter volontairement, enfin, mmh, au départ. Mais il y en a beaucoup qui... ça va très bien comme ça, ils se débrouillent, ils sont à la retraite, ils ne travaillent plus, ils ne sont pas très très motivés. Hein.
Oui, d'accord.
Ou ils ne font pas les efforts pour y arriver. Enfin, on peut obtenir un très bon résultat.
Mmh. Oui.
Vous en avez vu, rééduquer,
non? Non, mais ma femme a... Enfin, une amie française qui habite dans le Midi, justement, et dont le père a été opéré du larynx, enfin, comme ça. Et lui, il s'est fait rééduquer, justement, pour parler avec de l'air de l'estomac.
Oui.
Et alors, ça commence, et il paraît même qu'il reçoit des coups de téléphone maintenant, etc. Enfin, c'est un, je ne sais pas, un avoué, un notaire, donc il a besoin de parler.
C'est
vraiment,
ça, ouais. C'est ça, enfin, en général, oui, les professeurs, les professeurs libéraux ont besoin de parler, enfin, ils ne veulent pas se cantonner à un monde muet, enfin, donc ils font les efforts pour, et ils arrivent à très très bons résultats. Enfin, j'en ai vu beaucoup à Paris, dans le service où j'étais, c'était formidable. Mm. Ça donne une voix pas très agréable, mais enfin... quand même très supportable et très audible, enfin,
on
comprend parfaitement.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu le film Alphaville de Godard.
Non, j'ai pas vu.
Pendant tout le film, le commentaire est fait par un injectomisé, justement.
Ah bon ?
Du service où on était. Ça donne une voix un petit peu d'outre-tombe, enfin.
Oui.
Mais c'est pas désagréable, enfin.
C'est très intéressant, ça. Et enfin, je crois que votre travail vous plaît.
Oui, bien sûr. Oui, parce que vraiment, j'y consacre une grande partie de ma vie. Et puis, enfin, je m'occupe aussi des sourds. Alors, ça, c'est un travail énorme, mais c'est passionnant parce que chez les sourds, on est obligé vraiment de tout approfondir. Hein. Mm-hmm. Enfin, de toute façon, si on s'occupe de sourds, après, on est capable de s'occuper de tout parce que je suis obligé de faire l'articulation, bien sûr, pour leur apprendre à parler. Mm-hmm. La lecture labiale, et alors le langage, évidemment, toute la construction du langage dès le départ, quoi. Leur expliquer ce qu'est un verbe, ce qu'est un nom, enfin leur expliquer le vivre finalement avec ce qu'est un verbe, ce qu'est un nom, pourquoi telle préposition, pourquoi, enfin vraiment c'est la construction du langage lui-même, et ça c'est passionnant. Enfin.
Et comment est-ce que vous, enfin vous aviez une machine justement, que mademoiselle m'a montré, c'est une... pour la rééducation de l'oreille, mais qui est...
Oui, alors c'est pareil.
Pour, enfin, ils font passer des fréquences différentes. Enfin, il y a par exemple des trous dans la réception de l'oreille.
Oui.
Et comment est-ce que...
Je ne connais pas très bien. C'est pas du tout une méthode que les orthophonistes utilisent. Au contraire, il y a une guerre entre eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien l'utiliser. Enfin, je sais qu'en général, oui, le docteur qui a fait cette méthode a observé que les enfants qui avaient des troubles du langage avait des mauvaises perceptions sur les aigus. Donc en général, il remonte la courbe. La courbe d'audition des enfants, pas des enfants, enfin des personnes qui utilisent cet appareil. C'est-à-dire que l'enfant parle de, bon, dans le micro, il s'entend parler sur une fréquence plus aiguë.
Plus aiguë.
Et alors, par mimétisme, il arrive à imiter, il perçoit des choses beaucoup plus riches et, enfin, il paraît que c'est merveilleux.
Oui. Mais par exemple, pour son intonation, donc, par exemple, si un enfant a des troubles, ou si une personne a des troubles de ce genre-là, s'il ne perçoit pas les fréquences, les aigus, est-ce qu'il perçoit une courbe d'intonation tout à fait normale? Quand même, il n'y a pas de trou dans...
Non, il lui manque quand même certaines informations.
Il lui manque...
Et en général, ils ont une voix plus atone... Peut-être moins rythmé, enfin, il y a quand même aussi des incidences.
Il y a des incidences, et donc des... Non, vous permettez encore.
Oui, bien sûr.
Et donc, du fait qu'ils ne perçoivent pas ça, donc ils interprètent mal une phrase ou une question... Oui.
Enfin, je peux pas tellement vous en parler, parce que...
Mais comment est-ce que vous procédez donc avec les sourds?
Oui, on a quand même des amplificateurs avec les sourds. Hein, mais oui, évidemment, au centre, on n'en prend pas en général de sourds, ou bien des demi-sourds, qui sont déjà appareillés. Alors ici, je m'occupe de... Enfin, je travaille avec Paris, toutes les semaines, je vais à Paris dans un centre d'orthophonie. Donc les enfants que j'ai ici, les petits, sont vus également à Paris. Hein. Alors bon, je les prends très jeunes, enfin, 3 ans, 4 ans. Commence déjà à ce moment-là, la rééducation du rythme, enfin de auditive, des bruits, des rythmes, enfin il faut commencer très très tôt et les habituer à vivre dans un monde de bruit, même s'ils entendent très peu de choses. Donc, bon, à Paris, on a des gros amplificateurs de table, et puis dès qu'on estime qu'ils sont capables de donner une réponse valable, enfin, de toute façon, on leur fait des audiogrammes très souvent. Et dès qu'on estime avoir une réponse valable, on les appareille. Hein. Alors, ça dépend, appareil à fil ou appareil stéréophonique. Et ensuite, donc, l'enfant garde son appareil le plus temps possible, toute la journée s'il peut, au moins pendant le temps de rééducation.
Oui, d'accord. Oui. Et si vous ne faisiez pas ce métier-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Je crois que si j'avais été un garçon, j'aurais aimé être architecte. Bon, ça c'est. Avant de choisir, ça je pensais être professeur d'anglais.
Ah bon?
Mais sans enthousiasme en fait.
Ouais.
Parce que je savais pas très bien. Enfin, il y avait très longtemps que j'avais envie de m'occuper de troubles du langage chez les enfants, mais je savais pas très bien comment m'orienter. Je connaissais pas ces études qui sont assez nouvelles d'ailleurs. Et c'est à la fin de... Je fais Hippocagne, à la fin d'Hippocagne, j'ai rencontré une amie qui faisait ça et qui m'a parlé de ses études et je me suis renseignée à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé faire?
Je vais t'orienter tout de suite.
Oui, vraiment. T'es attirée tout de suite par ça.
Et beaucoup de femmes mariées travaillent. Est-ce que, à votre avis, c'est une bonne chose que les femmes...
Oui.
Oui.
Oui, moi je pense pas. Enfin, je sais pas, dans la mesure où j'ai choisi mon métier, où il me plaît beaucoup, j'envisage pas du tout la possibilité de, bon, si je me marie, de pas travailler. Enfin, je me sens indispensable de continuer ma profession, sinon je me dévaloriserai à mes yeux. Enfin. Mais évidemment, je pense qu'il faut que ce soit compatible avec la vie de famille, avec les enfants. Et... Je pense que c'est une histoire de cas personnel, enfin. Mais je pense qu'il est bon que la femme, enfin, à mon avis, je pense qu'il est bon que la femme travaille. Je pense que c'est nécessaire pour son équilibre.
Pour son équilibre. Et c'est...
Mais enfin, je sais bien que bon, les femmes qui travaillent en usine, ça doit être très pénible, enfin, de travailler toute la journée, d'avoir les enfants le soir, et je pense que c'est très néfaste pour les enfants, pour le mari, pour l'équilibre du ménage, ça c'est sûr. Et je pense qu'il faudrait trouver une solution, enfin.
Mais le travail à mi-temps, est-ce que ça ne s'implante pas en France? Est-ce que...
C'est difficile. Pendant, je vois ma sœur qui a une profession, travaille à la maison d'enfance, un salaire très, très modeste. Elle a deux enfants. Alors elle s'est posée bien sûr le problème de ne plus travailler pour élever ses enfants. Elle a commencé par demander un arrêt d'un an pour élever sa première fille. Ensuite elle est retombée enceinte. Alors elle s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas redemander encore un congé. Donc elle retravaille. Mais si elle travaille, elle a la possibilité de travailler à mi-temps. Si elle travaille à mi-temps, son salaire est insuffisant. Donc ça vaut pas le coup. Fin...
Oui, oui, ça, oui.
Je pense que l'expérience qui est faite actuellement, qui va être faite, je ne sais pas, pour les infirmières, pour eux, va être intéressante. Parce que, puisqu'en France, on supprimait les allocations de salaire unique, ou, enfin les allocations familiales si la femme travaillait.
Ah bon?
Mais je pense que ça va être réenvisagé, et justement pour que la femme ait envie de travailler à mi-temps, et d'une manière avantageuse.
Oui.
Je crois, effectivement, ce serait une très bonne solution. Enfin, nous, par exemple, j'ai des amis orthophonistes, c'est absolument idéal. Enfin, bon, moi je travaille au centre, mais on peut travailler uniquement en profession libérale, ou au centre on peut travailler par vacation. Ou... Mmh. Bon, j'ai une amie qui travaille deux journées au centre et qui travaille quelques heures dans la journée chez elle tout en gardant ses enfants. Enfin.
Mmh. Oui.
Ça, c'est vraiment une profession formidable.
Oui,
enfin,
oui, oui, c'est...
Tout en étant intéressante.
Mmh. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Est-ce que vous en avez?
J'en ai très peu. Ben, il me reste pratiquement le dimanche et tout.
Et qu'est-ce
que je fais? Je vais souvent à Paris parce que j'ai gardé des amis à Paris.
Mm-hmm.
On se revoit entre amis, au cinéma. On va passer des week-ends souvent. Enfin, on a un ami qui est de maison en Bretagne. On va passer souvent passer le week-end là-bas. Enfin, c'est vraiment un dépaysement complet. Enfin... pas tellement de temps libre finalement. Mmh. Ou alors j'ai des réunions, enfin bon, ça tombe toujours autour du travail.
Et, oui. Et comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier?
Dimanche dernier, j'étais sortie avec des amis ici samedi soir. Enfin, on était invité chez des amis, on a dansé samedi soir, ce qui fait que je me suis levée très tard dimanche matin. Et je suis allée faire un tour dans ma famille en Sologne parce que je n'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai des petites nièces adorables. Et...
Ouais.
Il fallait que je les revoie avant qu'elles partent en vacances.
Mmh. Elles ont quel âge?
3 ans et 4 ans.
3 ans et 4 ans. Et qu'est-ce que vous ferez pendant les vacances d'été?
Alors, je pars le 1er juillet au Maroc avec. On part à 6 en deux voitures par l'Espagne. Mmh. On fait un mois au Maroc et on revient par l'Algérie. Je débarque à Marseille, je retrouve Annie à Marseille.
Ah bon?
Et ensuite ensemble on ira, on retrouve d'autres amis. On va aller passer quelques jours au Festival d'Avignon.
Ah oui.
Et ensuite du Festival d'Avignon, nous irons dans le Rouergue faire un stage. Ah oui, j'aime beaucoup tout ce qui est artisanal, les travaux manuels, etc. Et on ira faire un stage d'artisanat dans le Rouergue pendant une dizaine de jours.
Ensuite,
Rouergue, c'est le Massif Central, vers Rodez.
Rodez.
Rodez, oui.
Rodez.
Non.
À part...
À l'Aveyron. C'est plus bas que Clermont-Ferrand.
Ah bon.
Plus bas, un petit peu à l'ouest.
Mm-hmm. D'accord. Non, Clermont-Ferrand, je vais aussi, parce que j'avais un ami qui habitait, donc c'est sur la carte, mais...
Dans les Causses, enfin, c'est un pays très sauvage, très aride, et... On va vivre dans une ferme en pleine campagne, faisant des poteries, ou des bougies, ou du tissage, ou du modelage, enfin, choses assez variées.
Et, à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école?
Je pense qu'on devrait leur apprendre à être heureux, surtout. Leur apprendre à se connaître, même, et à... pouvoir épanouir toutes leurs possibilités, enfin, exploiter toutes leurs possibilités, aussi bien au point de vue artistique, enfin, tout ce que, enfin, je sais pas, musique, rythme, poésie, qu'intellectuel, enfin, qu'ils aient envie d'apprendre quelque chose, mais que ça vienne d'eux-mêmes, je pense. Hein. Pas leur imposer des choses, comme ça. Hein.
Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école, par exemple?
Mmh. Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose, le latin, parce que c'est la base du français. Je pense que... Mais peut-être on l'apprend trop jeunes enfants, je ne sais pas, enfin... Moi, ça ne m'a pas du tout intéressé pendant des années. Et puis ensuite, quand j'ai fait l'hypocagne, j'ai trouvé ça passionnant. Et c'était très lié au français, tout ce qu'on faisait. Et moi, ça m'a paru indispensable, enfin, d'avoir quelques connaissances.
Latine, oui. Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Pour moi, il y a une grosse question psychologique. Enfin, c'est toujours la même chose. Il faut seulement que les enfants soient motivés. Et ça vient des parents, ça vient des enseignants, ça vient du contexte social tout autour d'eux. Et je pense que n'importe quel enfant, qu'il soit intelligent ou non, peut faire quelque chose de toute façon et améliorer ses connaissances par rapport à lui-même.
Oui.
Donc, je pense qu'une école, enfin une bonne école, devrait permettre à tous d'être heureux et d'avoir des connaissances.
Oui.
Et les exprimer, en tout cas.
Oui. Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Dans un cycle scolaire.
Pardon, je peux vous demander de...
Ah oui. Mais je sais pas, les enfants qui veulent faire des études supérieures, enfin, qui sont censés faire ensuite des études supérieures, je pense, bon, bah, pas de problème, ils continuent, mais les enfants qui ne sont pas tellement motivés, qui n'ont pas envie, qui ne... Je pense qu'on devrait les orienter autrement, assez, peut-être assez tôt, tout en continuant quand même une certaine culture générale.
Oui. Donc, les encourager à faire des études plutôt techniques,
oui.
Mais tout en...
Tout en les insérant dans certains contextes, enfin...
Est-ce que vous croyez que l'âge, par exemple, enfin, oui, l'âge de 16 ans, est-ce que ça vous paraît un peu tard, par exemple, pour commencer à s'orienter, est-ce que c'est...
À 6 ans ?
À 16 ans.
16 ans.
Pardon.
Peut-être oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'ennuient à l'école et qui ne font rien.
Est-ce que c'est la même chose pour les garçons et pour les filles? Est-ce que vous faites une distinction?
Je connais surtout les garçons, finalement. Oui, je crois que c'est la même chose.
Et quelle différence y a-t-il entre les lycées, les CEG et les CES? Est-ce qu'il y a une différence?
Enfin, je crois qu'au départ, le lycée, c'est... les parents mettaient leurs enfants au lycée lorsqu'ils avaient l'intention de leur faire poursuivre leurs études. Parce que le CEG, c'était plutôt une histoire de quartier et... Non, je veux dire, je sais pas tellement la différence, hein. Et on mettait les... Et c'était pas tellement les parents qui demandaient, mais qui demandent, parce qu'ils allaient au CEG et CES, mais... C'est plutôt automatique, enfin une histoire de localisation, de quartier. Alors je pense que même si l'enfant ne doit pas avancer son étude, il va au CEG ou au CES un petit peu. Et puis, je pense qu'au lycée, les parents ont vraiment l'intention de faire poursuivre leurs études à leurs enfants, il me semble.
Et est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a des différences entre les élèves, par exemple, qui viennent de CEG, de CES ou d'un lycée? Je ne sais pas, peut-être dans votre travail, vous avez des enfants
moi, je
de cet âge-là.
Assez peu d'adolescents. Hein. Mais je pense qu'il y a cette différence-là, que les enfants de lycée viennent de milieux plus aisés, peut-être plus cultivés, alors que ceux de CEG et de CES viennent de milieux plus simples, peut-être.
Et comment est-ce qu'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre ?
Je crois que l'école libre, c'est certains milieux bourgeois et plus aisés de la ville qui ont leurs enfants dans les écoles libres.
Et
qui veulent assurer une bonne éducation à leurs enfants, entre guillemets.
Et vous personnellement, comment est-ce que vous feriez le choix ? Qu'est-ce que vous, si vous aviez des enfants, bon, ils étaient prêts à aller à l'école.
Moi, je les envoie à l'école publique.
Et qu'est-ce qui vous ferait accepter d'envoyer des
enfants ? J'ai été élevé dans une école privée.
Bon.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous ferait accepter d'envoyer vos enfants à l'école libre ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui vous ferait accepter d'envoyer des enfants à l'école libre ?
Mais je préférais l'école publique. Hein.
Oui, oui.
Oui. Enfin, mais si j'étais obligée de les envoyer à l'école privée.
Qu'est-ce qui vous ferait accepter de les envoyer dans un...
Chez les petits, peut-être le trop grand éloignement, la possibilité de les accompagner, enfin des choses matérielles peut-être. Parce que sinon, je pense que l'enseignement est peut-être aussi valable dans n'importe quelle école.
Et votre question sans réponse. Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous on fait assez pour les habitants ?
Je sais pas, je pense que Orléans, le problème c'est que c'est trop près de Paris. Je pense que les gens qui ont envie de faire quelque chose sont très, très, très facilement à Paris. Je sais pas, c'est difficile. Je crois que les gens d'Orléans enfin, se plaignent toujours qu'il n'y a rien à faire à Orléans, mais je crois qu'en cherchant bien, il y a quand même des conférences, il y a des... Enfin, faut que les gens aient envie d'y aller, c'est toujours le problème. Une conférence du cinéma, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même des possibilités de culture, enfin.
Oui. Et sur d'autres plans, à part le plan culturel, est-ce que vous croyez qu'on fait assez pour les habitants ?
Sur quel plan d'équipement
Je sais pas, l'équipement de la ville... Service public ou...
Je pense qu'enfin, moi je suis très peu au courant de ce qui est question sociale. Enfin...
Enfin, quand je vous ai posé la question, j'ai dit on. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
On ? Ça représente. Conseil municipal, ça représente des organismes responsables, mais bon.
Et des organismes responsables par le conseil municipal.
Oui, c'est ce que je suis en train de chercher.
Voyez-vous d'autres personnes, par exemple, qui ont de l'influence à part le conseil municipal, mais.
Qui ont de l'influence sur la vie orléanaise même. Je connais pas nominativement, je pense qu'il y a des comités de loisirs, qu'il y a des comités de. Je sais pas très bien.
Et on a beaucoup parlé des événements de mai en 68. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce qui s'est passé ?
Allez, on a vécu un petit peu retardement enfin, par rapport à Paris. Enfin, je pense que c'est un peu pareil, toutes les villes de province. Moi, j'ai vécu d'une étrange manière parce que j'ai toujours pris une situation un petit peu de recul par rapport à ce qui se passait. Enfin, j'étais un petit peu abasourdi par le fait que les gens se mettent si rapidement en train de tout remettre en question. Alors que finalement, avant même, si tout n'allait pas très bien, je pense que. La plupart des gens n'en avaient pas conscience, enfin, ils n'exprimaient pas tellement, et tout d'un coup, J'étais heureux de trouver un bouc émissaire, de... d'espérer, enfin, je pense que c'est une... que ça a été une grosse période d'espoir, de changement, et... mais magnifié, enfin. Même... Je sais pas si les gens y croyaient, enfin, je sais pas, je pense que les gens y croyaient peut-être, mais moi ça me paraissait vraiment assez extraordinaire.
Et est-ce que vous voyez comment on peut expliquer par exemple ces événements? Est-ce que...
Mais par le fait que. Pas politique, parce que politiquement, parce que les gens ne, depuis pouvaient assez peu enfin, s'exprimer finalement et avaient l'impression de plus pouvoir s'exprimer peut-être. Et on saisit cette occasion de pouvoir tout remettre en question. Enfin, c'est une forme de rébellion.
Et est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans ?
Enfin, apparemment, j'ai envie de dire non, et puis en fait, je crois que c'est une grosse différence de classe sociale. Enfin, il y a des classes vraiment très aisées, une classe vraiment très aisée, et. Enfin, je les connais très peu, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des gens quand même qui sont très. Enfin, Annie connaît beaucoup mieux que moi les cas sociaux et moi j'ai pas tellement de rapport avec eux si vous voulez, mais je pense quand même qu'il y a des gens très extrêmement pauvres qui vivent dans des conditions matérielles très très difficiles. Et c'est tout le problème des travailleurs immigrés qui vivent à Orléans, il y en a beaucoup et qui vivent dans des conditions très dures. Enfin.
Et à quoi est-ce qu'on reconnaît des gens qui appartiennent aux classes aisées par exemple? Que vous croyez qu'on peut les reconnaître d'après quelque chose?
Bon, si vous regardez le journal, on parlera du Lions Club, on parlera du Rotary Club, ils sont toujours les mêmes personnes qui font partie de ce genre de choses. Sont les mêmes personnes qui envoient leurs enfants dans les écoles les écoles privées, enfin les mieux côtés de la ville. Extérieurement, les mêmes personnes qu'on verra aux inaugurations, et c'est peut-être aussi la notoriété. Notoriété aussi. Notoriété.
Notoriété, pardon.
Je pense que c'est une question de représentativité, peut-être, extérieure.
Est-ce que vous croyez que les différences entre les classes sociales ont tendance à diminuer quand même, à augmenter?
Je pense que dans les classes moyennes, ça diminue. Je pense qu'il reste quand même toujours des... que les classes très pauvres restent quand même très très pauvres. Je pense que les différences diminuent, oui, vers le milieu.
Qu'il y a un rapprochement
vers le centre, oui, peut-être. Je pense qu'il reste quand même une catégorie de gens très, très démunis, et très... qui ne savent pas s'organiser, qui n'ont pas de moyens pour s'organiser, et qui restent toujours très très défavorisés.
Un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous?
Je vais vous dire la région du Val-de-Loire, parce que, soi-disant, l'accent est meilleur. Enfin, l'accent, le français est le mieux parlé. Mais non, je pense qu'à Paris, quand même, une ville assez idéale pour un étranger.
Et.
Enfin, Paris. Le problème, c'est qu'il sera pas accueilli dans des familles françaises, bien sûr. Enfin, ou à moins
qu'il le.
À Paris ou même partout, je pense. Hein. Je pense que c'est difficile pour un étranger de faire d'être accepté et d'avoir des rapports avec.
Et pourquoi est-ce que vous dites Paris?
Paris, parce que moi je trouve que c'est formidable de jouer à Paris, le milieu étudiant, je trouve extraordinaire. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de possibilités de. Enfin, je sais pas, toutes les conférences, toutes les expositions, toutes les. Je sais pas, je trouve que la vie du quartier latin est extraordinaire.
Oui, oui. Et est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter?
Qui devrait être évité en France?
Qui devrait être évité
pour un étranger?
Oui.
Pourquoi non? Je trouve que tout est intéressant, mais il vaudrait mieux ne pas se limiter à une région de France. Mmh. Peut-être, oui.
Mmh. Et pour bien apprendre le français, quel genre devrait-il fréquenter?
Quel genre? Mmh. Ah, je m'excuse, faut que j'aille. Qu'est-ce que je fais?
Ouvrir.
Interview to be continued on the 24th of June. The first part of the interview was on the 20th of June.
La dernière fois, enfin, les endroits de France où devrait aller un étranger,
oui.
Si vous vous rappelez.
Oui.
Alors, nous avions dit, je crois, vous aviez dit Paris comme ville.
Priorité, oui.
Oui. Et j'avais dit, je vous avais demandé s'il y avait des endroits à éviter. Et je ne sais pas si vous n'en voyez pas, si.
À éviter, non, pour moi, non. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas se cantonner à un seul endroit de la France. Par exemple, il vaut mieux, pour avoir une meilleure idée, mais si c'est pour l'accent, ça n'est pas. Enfin, si c'est pour l'accent, il vaut mieux aussi peut-être être dans le centre de la France. Enfin,
oui.
Mais sinon, pour connaître la France elle-même, les gens, je pense que c'est très intéressant d'aller un petit peu partout, si c'est possible.
Oui. Et pour bien apprendre le français, donc, quel genre devrait-il fréquenter?
Qu'est-ce que ça veut dire pour bien apprendre le français? Si c'est pour bien connaître la langue elle-même, je pense qu'il peut rencontrer n'importe qui. Mais si c'est pour avoir une connaissance, une bonne connaissance linguistique, enfin, un bon langage, évidemment, il vaut mieux qu'ils connaissent des gens, soit des étudiants, soit des milieux sociaux assez culturels, assez élevés, peut-être.
Mmh. Et est-ce qu'il y a des gens qu'ils devraient éviter de fréquenter?
Non, enfin. Non, je ne pense pas.
Non. Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger?
Je pense qu'il y a l'accent, mais ça, c'est valable pour n'importe qui, et pour n'importe quel étranger. Même pour les Français, enfin, par rapport à un pays étranger, évidemment. L'accent, le rythme, les tonalités, enfin, je pense que tout ce qui fait le propre d'une langue, mais sinon, au point de vue grammatical et syntaxique, je pense qu'il n'y a pas de difficulté énorme, je pense que c'est très possible. Ah, peut-être aussi les synonymes, enfin, tous les termes qui se rapprochent les uns des autres sont.
Et est-ce qu'on parle bien Orléans?
Est-ce qu'on parle bien Orléans? Enfin, les Orléanais disent qu'ils parlent bien.
Et vous n'êtes pas orléanaise?
Non, enfin, non, tout près. Tout, quoi.
Tout près.
Oui.
Mais, et vous croyez que vraiment c'est valable?
Oui, moi je pense que c'est correct.
Oui.
Oui. Oui. Et... Ah, excuse. Annie, tu peux ouvrir? Elle n'a pas entendu, hein.
Tout le monde parle bien, vous trouvez que tous les Orléanais parlent aussi bien le français?
Non, moi je pense aussi que ça dépend des milieux socioculturels.
Non, c'est pas lui qui vient. Bon.
Et est-ce qu'à votre avis le français est une langue difficile?
Moyennement difficile, je pense.
Moyennement difficile, mais en quoi?
Je pense que. Je sais pas, enfin, j'ai connu pas mal d'étrangers et ils s'étaient mis très très vite à apprendre le français et correctement, enfin. Mm-hmm. Mais c'était toujours l'accent qui était le. Enfin, à mon avis. Surtout l'accent qui était le problème et qui rendait la compréhension plus difficile, même si les tournures de phrases étaient bonnes finalement.
Mais pour les Français, par exemple, est-ce que vous croyez qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'ils ont des difficultés avec leur langue?
Les Français eux-mêmes? Des difficultés Français avec leur langue? Oui, ça c'est sûr.
Enfin, est-ce que vous pourriez...
Oui, je sais, j'ai pensé. Non, je pense que dès qu'il s'agit de construire une phrase un peu difficile, enfin, avec plusieurs propositions, souvent, par exemple, les accords des verbes sont mauvais, ou bien les conjonctions sont mal employées. Enfin, je pense que, oui, surtout les accords de verbes sont mauvais, je pense.
Oui. Aussi bien dans la langue, dans le langage parlé que dans le langage écrit.
Oui.
Et quelqu'un est de passage à Orléans, il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
À Orléans. Bon. Je conseillerais, par exemple, de faire un petit tour à pied dans les vieilles rues d'Orléans. De se promener aussi à pied pour voir le centre de la ville, pour voir pour avoir une connaissance comme ça visuelle de la ville, mais aussi de voir les vieux quartiers, de voir la Loire, puis s'il peut d'aller un petit peu en Sologne, enfin ça c'est au point de vue touristique, en Sologne, de voir l'abbaye de Saint-Benoît par exemple, ou bien un château, pas tout touristique, sinon... Moi, j'emmène souvent mes amis voir à la Maison de la Culture. Mais je pense que c'est un milieu un petit peu surfait, de toute façon.
Un petit peu
surfait, enfin. Je veux dire, on y rencontre un certain style de jeunes. Je pense que, bon, c'est pas du tout représentatif de l'ensemble d'une jeunesse, ni même... Je pense qu'ils sont un petit peu à côté des buts qu'ils avaient eu en créant cette Maison de la Culture.
Oui, justement, l'autre jour, il y avait... Nous parlions de la Maison de Culture et des Maisons de Culture. Et quelqu'un disait que les Maisons de Culture actuellement ne fonctionnaient pas du tout dans le même style qu'était auparavant leur but. Enfin, le but, il y avait un but, et puis alors ils avaient tourné un peu de ce but. Est-ce que vous pourriez me dire quel était le but?
Enfin, quand la Maison de la Culture là, s'est fondée à Orléans, je sais pas, il y a 3-4 ans à peu près, je pense qu'ils atteignaient, enfin, peut-être, comme je n'y vais plus beaucoup, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils atteignaient à ce moment-là un public beaucoup plus large, enfin, et encore. Enfin, il y avait quand même des adultes qui se déplaçaient, qui venaient, et il y avait des échanges intéressants. Enfin, je me rappelle d'une conférence sur la psychiatrie, c'était très très intéressant, il y avait il y avait des psychiatres qui étaient venus, mais il y avait aussi des anciens malades, et il y avait aussi des gens tout à fait qui cherchaient simplement une information. Bon, au point de vue spectacle, j'ai reconnu par exemple un de mes anciens professeurs de français, enfin, il y avait aussi beaucoup d'adultes, et il me semble que maintenant, peut-être que je me trompe, la Maison de la Culture est surtout animée par une équipe de très jeunes qui font peut-être une certaine recherche dans la danse, dans le théâtre, et c'est intéressant. Mais je pense que de toute façon, ils n'atteignent pas le public populaire, ça je crois pas du tout. Je pense que c'est toujours ou un milieu étudiant, ou bien même si les adultes y vont, je pense que c'est quand même des gens, ou professeurs, ou enfin de certains milieux quand même.
D'accord. Oui.
Qui cherchent une culture, mais ils ne sont pas des gens qui sont accrochés comme ça.
Leur but essentiel était...
Moi, je croyais que c'était de toucher toutes les catégories sociales, tout le monde. Et de quel âge que ce soit, enfin depuis les... Les jeunes, enfin tout le monde quoi.
Oui, d'accord.
Et même maintenant, ils s'adressent aux enfants. Enfin, il y a des activités pour enfants. Et je crois qu'ils. Bon, c'est peut-être parce que les gens qui s'en occupent sont jeunes, et puis. Et je pense que c'est un petit peu trop restreint comme registre de personnes qui s'en occupent.
Oui.
Et puis, ils ont fait des choses pas valables. Enfin, par exemple, ils ont fait une. Sur Matisse, par exemple, ils avaient fait des projections de photos avec commentaires. Bon, ça aurait pu être très très bien. Mais ils l'avaient fait faire par un jeune qui, enfin, sans culture, enfin, qui se contentait de lire deux ou trois petites lignes à chaque fois. Et c'était insuffisant. Enfin. Bon, c'est peut-être intéressant que des jeunes prennent l'initiative de faire des choses comme ça.
Oui.
Mais c'est peut-être un petit peu dommage qu'ils ne soient pas suffisamment soutenus et encadrés quand même.
Oui, d'accord. Et quelqu'un frappe à la porte de sa pièce. Qu'est-ce que vous lui dites si quelqu'un frappe à la porte?
C'est pour qui est-ce?
Non, est-ce que vous pouvez par exemple vous imaginer qu'il y a une porte là, deux portes, et que vous êtes assise là, et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Oui. Qu'est-ce que vous dites?
Je dis entrez.
Entrez?
Oui.
Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose de la maison. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter? Vous les rencontrez dans la rue, ou, par exemple vous êtes dans la rue ou au travail et après vous allez vous avez rencontré une personne que vous n'avez pas vue ou je sais pas et vous voulez l'inviter prendre quelque chose à la maison, comment est-ce que vous l'invitez?
Oui, bah, ça dépend un peu du degré d'intimité que j'ai avec cette personne. Enfin, je lui dis bon, est-ce que tu as un petit peu de temps, je serais contente de te voir, viens, monte chez moi, on va boire quelque chose ensemble. Enfin, je vois très simplement.
Ouais. Et comment est-ce qu'on fait une omelette?
On fait fondre un peu de beurre dans la poêle, on fait chauffer. Bon, auparavant, on a cassé les œufs. Bon, par exemple, je casse les œufs dans un bol, je remue avec une fourchette, et je mets du sel, du poivre et je verse les œufs battus dans le beurre chauffé. Et puis, j'attends que ça cuise.
Est-ce que vous pouvez me décrire comment vous vous y prenez pour faire un nœud?
Un nœud? Un nœud avec de la selle?
Oui, un nœud de la selle, par exemple. Est-ce que vous pouvez me décrire comment vous faites?
Bon. J'imagine. Je prends chaque extrémité de la selle dans chaque main. Je fais passer l'extrémité droite sous le lacet gauche qui forme une boucle. Ensuite, bon, je rattrape l'extrémité droite et je la fais passer dans la boucle formée par les deux lacets et je tire. Très laborieux.
Est-ce que vous faites des mots croisés?
J'en ai fait beaucoup quand j'habitais Paris, que je venais travailler à Orléans, j'en faisais dans le train énormément. Maintenant, je n'ai plus le temps d'en faire. Ou si j'en fais, c'est avec les enfants, enfin rééducation.
Oui, oui, d'accord. Vous les faisiez tous les jours?
Oh ou... non, voilà. Pas par semaine, non, je n'étais pas fanatique du tout. Je vais bien de temps en temps pour passer le temps.
Oui. Mais, et lesquels vous les faisiez dans un journal ou...
Oui, dans un journal, dans une revue hebdomadaire souvent. Oui.
Enfin, vous n'achetiez pas de livres?
Ah non, non, non. Non, 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 non.
Nous posons toujours beaucoup de questions sur le latin, mais est-ce que vous pensez qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Ça dépend évidemment de l'intérêt des enfants. Moi, je pense oui que c'est intéressant d'apprendre. Je pense que, au même titre que l'histoire, que la géographie, je pense qu'on a besoin de se situer de toute façon. Donc c'est toujours intéressant de savoir l'origine de son langage, savoir l'origine... de connaître ses ancêtres, enfin je pense que c'est au même titre que l'histoire, je pense que c'est intéressant, oui.
Et que pensez-vous du franglais? Des mots comme snack bar, building, parquet.
Bon, j'avoue, ça ne me gêne pas beaucoup. Enfin.
Mais pas beaucoup.
Non, ça ne me gêne pas beaucoup. Enfin, bien sûr, je ne voudrais pas que le français soit envahi de mots de ce genre, mais je pense que pour des choses nouvelles. Pourquoi pas, enfin, ça me gêne pas.
Mais vous êtes pour, contre ou indifférent?
Indifférent.
Indifférent. Mmh. Et y a-t-il des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui, je pense, oui.
Et les différences sont grandes, très grandes, ou y a-t-il peu de différences?
Si, je pense qu'il y a de grandes différences.
Grandes différences.
Oui.
Et en quoi consiste-t-elle, surtout?
Différence, bon, dans la structure de la phrase, dans le déroulement du récit aussi, d'abord, qui a peut-être plus de mots de liaison, par exemple, dans un langage mieux structuré, et puis aussi dans surtout le vocabulaire, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus étendu, je pense. Mmh. Enfin, je pense qu'il y a plus de variété et dans le vocabulaire et dans les constructions de la phrase.
Mmh. Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, de plus en plus mal ou sans changement?
Bon, je pense que c'est... Je pense que pour les milieux assez évolués, je pense que c'est sans changement. Et pour les autres milieux, peut-être plus défavorisés, je pense qu'ils parlent mieux, peut-être. Mmh. Enfin, je pense que l'affluence de la télévision, puis les contacts peut-être plus nombreux entre les gens, et plus faciles, il me semble.
Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
Ça, j'ai jamais fait une étude de ce genre, parce que je me justement dit bien, c'est pas très bon travail.
Oui,
c'est sûr. Il m'a vu, ce qui fait que je m'attache jamais à quelques défauts que ce soit chez les autres, chez mes amis, enfin, ou chez les gens que je connais. C'est très difficile de dire. Oui. La personne qui parle le mieux.
Oui. La personne qui parle le mieux le français, pas une personne, je sais pas.
Parmi les gens que je connais, enfin que je connais personnellement. Ouais. Peut-être certains collègues. Alors pourquoi Moi, je pense à un médecin, par exemple, mais. Mais c'est peut-être très, très faux. Enfin.
Et y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Je pense que ce sont les académiciens, non?
Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est utile, très utile ou sans utilité?
Je pense que c'est utile.
Pourquoi?
De décider si un mot fait partie,
enfin, un mot ou une expression fait partie, oui ou non, du bon français.
Bon, ben, je pense que le français, du fait de ses origines, respecte quand même certaines normes, donc, c'est trop arbitraire. Donc, ce serait dommage, il me semble, que ce soit... que le français devienne, enfin que les nouvelles expressions deviennent très anarchiques, enfin non, pour moi il me semble qu'il vaut mieux rester dans certains cadres, pour garder une certaine rigueur et
enfin bien que des mots par exemple qui sont employés, qui soient employés tous les jours. Ne sont pas admis, enfin des mots qui sont employés tous les jours, ne soient pas admis par l'Académie française dans le français. Après, il y a, par exemple, je ne sais pas à quel moment ils ont enfin, francisé. Enfin, il y a 2 ou 3 mois, des mots vraiment qui font partie du vocabulaire de tous les joueurs, de tous les Français. Quelquefois, ils ne sont pas admis dans le dictionnaire, par exemple, de l'Académie ou dans des dictionnaires, parce que ça n'est pas du bon français. Est-ce que vous trouvez que c'est...
Non, moi je pense que si une expression fait vraiment partie du langage depuis longtemps, enfin si c'est bien installé, je pense qu'on peut l'admettre. Je pense à dire même que le français s'est constitué comme ça. Enfin, au début, il n'a pas été très pur. Enfin, tout n'a pas été très pur. Et je pense qu'on a admis des choses même qui étaient devenues du français vulgarisé. Enfin.
Oui. Enfin, vous ne croyez pas quand même que la langue s'organise d'elle-même, enfin malgré l'Académie française, c'est quand même, je ne sais pas.
Oui, peut-être. Oui, oui justement. Enfin, on... non, on peut. C'est très, enfin, je sais pas, j'ai utilisé cet aspect. C'est très différent, vous voyez, de. Enfin, le français parlé est très différent des normes. Enfin.
Je ne sais pas justement maintenant, nous rentrons dans une conversation que nous ne devrions pas avoir. Je suis censé ne rien dire. Non, mais non, enfin, justement, ça m'intéresserait vraiment de. C'est vrai parce que, par exemple, pour les Anglais, nous n'avons pas d'académie. Et alors, mais l'attitude des Anglais vis-à-vis de leur langue est tout à fait différente de l'attitude des Français vis-à-vis du français. Il y a, je crois, pour les Français, une espèce de français académique vers lequel on aspire, bien que le français de tous les jours reste... Enfin, s'organise d'elle-même, sans trop s'occuper de l'Académie française. Mais que enfin, les deux arrivent quand même à s'entendre,
se rejoindre
quelque part. Je ne sais pas.
Mais c'est vrai, par exemple, on n'écrit pas du tout une lettre comme on parle, ça c'est sûr.
Mais l'Académie française, bien sûr, de toute façon, c'est surtout... le bon français, je suppose que les académiciens décident si c'est du bon français écrit plutôt que du bon français parlé.
Oui.
Enfin, pour la plupart du temps.
Oui.
Est-ce que vous croyez qu'il faudrait obliger les journalistes et les speakers de la télévision et de la radio d'employer un bon français?
Oui, je pense qu'ils devraient payer un bon français, mais un français accessible à tout le monde. Enfin, correct, mais sans trop de recherche.
Oui. Et est-ce que vous trouvez que c'est très important ou peu important qu'ils emploient?
Qu'ils emploient un français?
Un français, un beau français.
C'est important.
C'est important, oui. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française, est-ce qu'elle est enseignée aussi bien, mieux ou moins bien que du temps où vous étiez à l'école?
Moi, je pense qu'elle peut être aussi bien enseignée, mais les classes sont peut-être plus surchargées, les enfants plus ou moins bien orientés, plus ou moins... Je pense qu'il y a, les problèmes des enfants et des instituteurs avec eux, mais sinon, je pense que...
C'est aussi bien quand même.
Oui.
Est-ce que vous croyez voir une différence entre le français des jeunes avec qui vous êtes en contact et par exemple le français de jeunes, quand vous avez commencé, par exemple, est-ce qu'il y a quand même, par exemple, ou est-ce que le français est tel que vous imaginiez que vous parliez, par exemple, quand vous étiez plus petite, est-ce que vous croyez qu'il était que les enfants ont, je sais pas, ont changé, ont... est-ce qu'il y a des différences
à niveau égal, est-ce que les enfants parlent mieux maintenant qu'autrefois?
Oui, c'est ça ce que je voulais dire.
Qu'est-ce que
c'est? Non, c'est parce que j'étais renvoyé, j'avais une idée, donc enfin, je suis sorti.
Enfin, moi je reviens toujours à la même différence, mais peut-être que c'est faux. C'est-à-dire que les enfants du milieu socioculturel assez élevé, je pense, ont le même langage maintenant qu'autrefois. Et peut-être que les enfants de milieu plus simple ont un langage plus riche maintenant du fait de la télévision, du fait de faire des informations de toutes sortes qui leur parviennent.
Mmh. Oui. Oui. Enfin, elle est enseignée aussi bien.
Oui. Moi, il me semble. Oui. Mmh.
Et vous voyez une explication à ce que l'enseignement du français ou de la langue française n'est pas changé, est-ce que vous voyez?
Enfin, peut-être elle n'est pas changée. Pour toutes les méthodes, je ne connais pas tellement actuellement en classe. Peut-être quand même que... c'est moins littéraire, c'est moins artificiel maintenant, peut-être quand même. On tient peut-être compte davantage de l'intérêt des enfants. Mais, je sais pas, la construction elle-même du langage, je pense, c'est la même. Je pense qu'on ne peut pas la faire de 36 manières. Enfin, on peut les méthodes sont peut-être un petit peu différentes, mais les buts elles-mêmes, ils sont... Mais... ça dépend, c'est une question de personne.
Mmh. Oui. Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
En maths.
En maths?
Oui.
Tiens. Maths en français...
Moi, en français, j'étais pas mauvais.
Oui. Enfin, en français, est-ce qu'on écrit avec un S?
Ah, pardon. Français?
Maths,
oui.
Maths, oui. Et habituellement, est-ce que vous avez quelque chose pour écrire sur un stylo ou un instrument?
Sur moi? Ah oui, j'ai toujours un crayon, oui.
Un crayon?
Ou plusieurs, oui.
Et un bloc ou un carnet?
J'ai toujours un carnet, oui.
Et possédez-vous un stylo à plume?
Oui.
Et à la suite de quelles circonstances avez-vous possédé un stylo? Là encore pour la première fois.
Oui. Un stylo, c'est quand j'étais à l'école primaire jusqu'en troisième, et c'est quand je suis rentrée en seconde, en pension, dans le cycle secondaire. À ce moment-là, j'ai eu un stylo à plume.
Quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois, pour n'importe quoi?
Que j'ai écrit? Oh, il devait être 7h15 tout à l'heure, parce que j'ai vu le dernier enfant.
Il y a à peu près, je sais pas, une heure.
Il y a eu, oui.
Et c'était pour quoi?
C'était pour faire un rapport sur un enfant que j'avais vu en rééducation.
Et vous avez besoin d'écrire pour votre travail?
Oui, beaucoup.
Et pour quel genre de choses?
En plus du travail? Non, dans le travail?
Oui, pour le travail.
Bon, pour... comme je m'occupe de dyslexie et d'orthographie, je fais beaucoup de tableaux aux enfants. C'est-à-dire, je leur montre... on étudie les sons, mais sous une forme très, très imagée. C'est-à-dire qu'on fait on écrit plus gros, avec des couleurs. Enfin, il y a certains... symboles qu'ils connaissent à force de travailler, et des couleurs significatives. Beaucoup donc pour montrer aux enfants, et ensuite pour prendre des notes moi-même sur leur évolution.
Et puis alors pour faire des rapports, vous avez un rapport à faire sur tout le monde.
chose de ce genre. Bon, je ne pense pas.
Et il serait en vacances au mois de juillet, oui.
Ah oui, ça c'est possible.
C'est possible. Mmh. À moins que quelqu'un revienne l'année prochaine, peut-être qu'il pourrait écrire. Enfin, on peut toujours écrire, je crois, au centre pour des interviews. Oui, alors on va essayer.
Non, parce que j'en ai pas. Justement, Jean-Claude m'a dit tu connais le linguiste avec qui travaille Annie? Je dis non, enfin, Annie m'a parlé un tout petit peu. Il dit mais ce serait intéressant que tu le vois, enfin. Tu vois, je crois qu'il était intéressé.
Oui, ça serait très bien. On va essayer de l'avoir. Peut-être qu'il ne part pas en vacances. Je ne sais pas.
Je ne sais plus, on en a parlé des vacances hier. Parce qu'il m'a dit qu'il partait. Il a des ennuis de voiture, alors je crois que c'est un petit peu reculé. Mais ça, je peux pas vous garantir. Je ne sais pas du tout.
Et le centre sera fermé la semaine prochaine?
On travaille encore. On a des réunions mardi, mercredi. Mais le centre n'est jamais fermé de toute façon. Donc il y a peut-être des médecins qui travaillent encore, ça. Je ne sais pas.
Alors je peux venir, enfin je viendrai voir Annie soit de, enfin Nicole, quel jour aujourd'hui, du mercredi, enfin d'ici la fin de la semaine. Et puis peut-être qu'on pourrait arranger quelque chose. Ce serait intéressant. Parce que je ne crois pas que nous ayons de psychiatre justement.
Elle a peut-être plus de 32 ans, non? C'est très important.
Oh non, enfin c'est... Nous faisons tous les...
Ou de toute façon il est jeune. Enfin,
oui, trois tranches d'âge. C'est de personnes nées avant 18, entre 18 et 37, et entre 38 et 50. Enfin, est-il important selon vous d'avoir une belle écriture? Est-ce que vous croyez que...
Je pense qu'il faut avoir une écriture lisible.
Et vous trouvez que c'est très important, important, peu important, sans aucune importance?
D'avoir une belle écriture?
Mmh.
Je pense que le passage d'internet, que ce soit lisible, donc que ce soit beau, du point de vue calligraphie, je trouve que c'est peu important.
Peu important. Et est-il important, selon vous, d'avoir de l'orthographe?
Oui, j'ai envie de dire oui, puisque je m'occupe de l'éducation d'orthographe. Oui. Je me choque toujours un petit peu. Enfin, je pense que bon, faut pas exagérer l'importance de l'orthographe. Bon, je pense que c'est mieux d'avoir une bonne orthographe, mais...
Alors, si... je vous pose, est-il important, très important, peu important, sans aucune importance?
Enfin, si j'ai envie de dire important quand même.
Important quand même, oui.
Non, ben, surtout qu'on juge beaucoup, finalement, enfin, je crois qu'on juge beaucoup les gens sur, enfin, lorsqu'on envoie une lettre, ne serait-ce que pour une demande d'emploi, je pense qu'on juge beaucoup les gens là-dessus, donc ne serait-ce que
pour
les conventions.
Oui, mais pour les, oui, d'accord. Mais il y a tout le monde qui nous dit, enfin, justement pour cette importance qu'ils attachent à l'orthographe, c'est surtout pour les demandes de ce genre, et pour tellement qu'ils attachent une importance à l'orthographe, mais pour l'importance que la société attache à l'orthographe.
Ouais. C'est très conventionnel, et toi?
Je sais pas, je crois que
je crois. Oui. Ah oui. Non, j'ai envie de dire que c'est très faux de juger quelqu'un sur l'orthographe, finalement. Mais que les habitudes font qu'en effet, on a tendance à juger. Mais finalement, c'est idiot. Mais...
Oui, mais enfin, les habitudes.
Pour ça, d'habitude.
Il faut les respecter pour nous. Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Non.
Non. défavorable, très défavorable, favorable, très favorable.
Enfin, une réforme d'orthographe qu'on avait parlé un moment, enfin, une orthographe très phonétique, c'est ça?
Oh, enfin, je ne parle pas de. Je ne sais pas s'il y a une réforme.
On a parlé de quelque chose, oui.
Mais. enfin une réforme, quelle qu'elle soit, de l'orthographe
non,
actuelle.
Je suis défavorable.
Défavorable, très défavorable, non.
Oui, oui.
Très défavorable.
Oui.
Et pourquoi très défavorable? Et pourquoi défavorable?
Parce que bon, enfin, peut-être que j'exagère, non, peut-être défavorable, non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'exceptions. Enfin, je pense que tout ce qui s'explique par justement par le latin, par, par les familles de mots, par enfin, tout ce qui peut être expliqué, je pense qu'il ne faut pas le changer. Je pense qu'on pourrait changer seulement les exceptions qui n'ont pas de raison d'être, enfin, si on ne peut pas les expliquer.
Par exemple, un mot comme collègue, alors, ou collègue.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enlever un L?
Enlever un L, oui.
Oui, mais alors en latin collegium, comment ça s'écrit?
Oui. Peut-être avec mes collègues.
Oui, je
ne sais jamais en anglais aussi. Non, avec deux N, oui, ça doit être.
Oui, peut-être l'orthographe d'usage pourrait être. Enfin, toujours pareil, si il n'y a pas de lien avec, avec une origine. Enfin, je suis trop portée, justement, sur. Explication linguistique. Mais... Non, peut-être certaines formes d'accord aussi. Cette forme du pluriel est encore. Non, je ne sais pas. Enfin, je vois pas tellement d'exemples comme ça, mais peut-être sur les choses qu'on ne peut pas expliquer grammaticalement. Mais sinon.
Combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
Pas pour le travail. Pas c'est mon drame. Je n'ai pas le temps. Pour le travail.
Oui, pour le travail et ensuite hors travail.
Oui. Par mois. Voyons, pour le travail. Bon, j'essaie d'en faire le minimum, donc je téléphone le plus possible. Mettons une quinzaine par mois.
Une quinzaine par mois. Et hors travail?
Et hors travail, ben, comme il y a quand même toutes les lettres administratives, ça compte aussi? Non,
oui,
c'est plutôt personnel.
Oui. Enfin, si même vous faites une distinction, si vous pouvez faire une distinction entre lettres administratives et lettres personnelles.
Bon, alors,
sinon, enfin, vous
lettre,
pouvez.
Lettres administratives. Mettons une dizaine par mois. Mm. Les personnels, pareil, je téléphone le plus possible. Alors, bon, mettons une dizaine aussi.
Une dizaine aussi.
C'était pas très régulier, enfin, une moyenne.
Oui, enfin, une moyenne. Et est-ce que vous conservez les lettres personnelles qu'on vous envoie?
Lettres personnelles, non, enfin je les conserve jusqu'à ce que j'en sois une suivante, enfin, ou s'il y a quelque chose d'important, d'important dont je dois me rappeler, enfin, mais sinon, non, je ne les garde pas.
Mais vous ne faites pas de collection de lettres?
Non.
Jamais.
J'en ai fait quand j'étais jeune, mais maintenant j'en avais tellement que j'ai tout jeté.
Et quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Non.
Est-ce que vous faites attention aux fautes d'orthographe?
Oui, enfin, je crois que j'écris de manière très impulsive et que. Moi, je relis, peut-être.
Vous relisez.
Mais, enfin. Autant pour la forme que pour. Et puis, enfin, pour savoir ce que j'ai mis moi-même, enfin, pour préciser, peut-être, mais je fais pas tellement attention. Non. Je pense que je fais de photographe, mais
enfin... oui et non, quoi. Et avec quoi est-ce que vous écrivez?
Avec un stylo feutre.
Un stylo feutre.
J'ai toujours des ennuis avec ma plume.
Okay.
J'ai toujours des ennuis avec ma plume.
Et quel type de papier utilisez-vous?
Ah, des grands formats. Des feuilles blanches, grands formats.
Feuilles unies, blanches.
Unies, oui.
Et avec un guide-ligne derrière?
Non, parce que j'ai une écriture très grande. Et...
Et quand vous devez écrire, enfin si vous deviez écrire au professeur à l'école de votre enfant, est-ce que vous feriez la même chose?
Oui.
Pas de brouillon?
Ah si, peut-être un brouillon, si, si.
Peut-être un brouillon.
Oui, quand même.
Attention, faute d'orthographe. Pareil. Même instrument, même papier.
Oui, oui.
Oui. Et pour une lettre officielle?
Pareil, je ferai un brouillon, mais je prendrai aussi.
Brouillon, orthographe. Orthographe, oui, non?
Oui, enfin, je ferai attention, mais.
Oui.
Si, mais comme je. Enfin, moi, j'estime que je fais pas de faute, enfin, je crois que j'en fais pas. Ouais. Donc, je fais pas spécialement attention à ça. Enfin.
Oui, d'accord. Et même instrument?
Oui.
Et même papier.
Enfin, du moment que c'est correct en écriture, enfin, que j'estime que c'est correct.
Il y a une question intéressante. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, justement, vous corrigez des fautes de prononciation? Il n'y a pas de fautes qui vous agacent?
Non.
Qu'il faut que vous corrigiez?
Non, non. Non, si c'est dans le cadre du travail, évidemment. Enfin, bon. Bon, on fait des séances bien précises et les enfants le savent, de rééducation d'articulation elle-même. Mais après, je favorise le plus possible l'expression, donc je pense qu'il faut favoriser le langage spontané. Et s'il faut les arrêter sans arrêt pour corriger quelque chose, c'est fichu. Enfin.
Mmh. Et vos parents, hein, faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Non.
Non. Il y a, enfin, je vois des bouquins là-bas, mais je ne vois pas très bien, tout en ayant des lunettes. Mais vous avez un dictionnaire?
Oui, j'ai le Larousse en 10 volumes depuis peu de temps.
Et ça, c'est une encyclopédie dictionnaire?
Oui.
Enfin, oui. C'est un dictionnaire, une encyclopédie.
Dictionnaire encyclopédique. Mm-hmm.
Vous avez depuis combien de temps?
Oh, 3 mois environ.
Depuis 3 mois.
De temps, oui. Et auparavant, j'avais simplement un petit Larousse.
Mmh. Et enfin, le Larousse, c'était un cadeau? Ou est-ce que vous l'avez acheté?
Non, je l'ai acheté.
Et un représentant ou un magasin?
Un représentant, oui. Ah, j'ai eu des tribulations terribles. J'ai regretté.
Et votre petit Larousse, vous l'avez plus maintenant?
Si, si, je l'ai toujours.
Oui. Et vous l'avez depuis combien de temps?
Oh, j'en ai toujours eu.
Toujours rien. Et toujours le même ou toujours?
Non, j'en ai racheté plus en couleur parce que je m'en sers aussi avec les enfants, alors c'est plus attrayant. Et c'est plus maniable. Avec les enfants, de toute façon, je me sers de celui-là, c'est plus maniable que l'encyclopédie.
Oui, bien sûr.
Qui est trop importante.
Enfin, c'est une édition de quelle année alors?
Celui-là, il doit être de 68 peut-être.
68.
Oui.
Et vous en servez beaucoup?
Non, pas beaucoup. Enfin, je m'en sers, mais beaucoup non.
Et combien de fois par mois à peu près?
J'ai très peu ici, hein. Alors mettons. Disons 5 fois par mois.
Et quand est-ce que vous l'avez regardé pour la dernière fois?
Samedi dernier.
Samedi dernier. Et vous y cherchez quel genre de choses, surtout?
Qu'est-ce que je cherche?
L'orthographe, le sens
ou... Non. Des connaissances. Enfin, comme je pars au Maroc, je cherchais un petit peu situer la géographie. Et...
Oui, d'accord. Et est-ce que vous avez un livre sur l'art de parler ou l'art d'écrire ou... Les difficultés de la langue française.
Non, j'ai quelques livres de rééducation, mais. Mm-hmm. Mais enfin, adaptés aux enfants, oui, pour oui. moi. Non.
Et un guide de savoir-vivre?
Non.
Non plus. Et est-ce que vous trouvez que ce serait utile? Enfin, est-ce que vous trouvez que des livres comme ça sont utiles, très utiles?
Pour moi, non. Mm. Non, ça ne me manque pas. J'ai jamais pensé en acquérir un.
Alors, je vais maintenant vous poser des questions qui feraient peut-être des lacunes dans le questionnaire. Je ne sais même pas plus si je vous ai posé ces questions, mais est-ce que je vous ai demandé de me décrire une journée de travail?
Non.
Est-ce que vous pourriez me décrire enfin, une journée de travail, comment ça se passe?
À partir du moment où je travaille ou...
Oui, enfin, une comment journée, est-ce que leur journée...
Comment,
enfin,
journée, comment ça se passe, une journée de travail? Bon, je me lève à la dernière minute. Je pars toujours très rapidement en voiture. Je suis toujours en retard. Bon, enfin pas beaucoup. Bon, alors je prends les enfants, soit en petit groupe... S'il s'agit de petits, soit individuellement que ce sont des plus grands. Donc les séances se succèdent enfin, toute la matinée, un rythme assez accéléré. Donc là je travaille avec les enfants. Si un enfant ne vient pas, bon, j'ai envie de me détendre, alors je descends, je discute avec les uns avec les autres, ou bien je dois revoir un dossier, ou bien... Je dois discuter d'un enfant avec le psychologue qui l'a vu, enfin, ou bien demander un renseignement sur l'école, au directeur pédagogique. Bon. Bon, en général, j'ai très peu de temps libre dans la journée. Ensuite, j'ai environ une heure et demie, à peine, une heure et demie de libre entre midi et deux heures. Bon. Ou bien je viens déjeuner ici très rapidement, ou bien je vais déjeuner avec des amis, enfin des collègues de travail. Mmh. Je reprends à l'après-midi, assez tôt en général. Bon, ça se passe comme dans la matinée. Enfin, les enfants se succèdent aussi, enfin, toute l'après-midi jusqu'à 7h le soir souvent. Et ensuite, je retrouve des amis, enfin pas toujours, enfin quelquefois je reviens ici chez moi, genre juste envie de lire un bouquin, de me coucher, ou bien je retrouve des amis, on dit ensemble au cinéma, ou... Enfin assez souvent quand même.
Et enfin, maintenant pour passer au loisir et au temps libre, si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous feriez de ça?
Je lirais.
Simplement les 2 heures.
Je lirai, j'écouterai de la musique, je me promènerai aussi un peu.
Vous avez très peu de temps pour lire, enfin, toujours on trouve ça.
J'ai en ce moment un bouquin passionnant, mais pourtant c'est passionnant. C'est un livre anglais, Libres enfants de. Ce mari, il est là. Je ne sais pas si vous connaissez, il est en dessous de la revue. Là. C'est une expérience d'un psychiatre anglais, c'est passionnant.
Oui. C'est une icône dans sa mère, non?
Oui, c'est une icône, oui.
Ah oui, je crois connaître enfin, une amie dont le mari était là-bas.
C'est vrai?
Je crois, oui. C'est une école où ils ont la liberté de tout
faire. C'est ça, oui. Mmh.
Et une espèce de. D'école libre. C'est une école libre, je crois, enfin privée.
Oui, c'est privé, oui. C'est un psychiatre qui s'en occupe. Mmh. Mmh. Et quelquefois, ils ne font absolument aucune scolarité. Et puis, lorsqu'ils ont envie de travailler, tout d'un coup, ils s'y mettent et ils rattrapent plusieurs années de retard en très très peu de temps. Et... Mmh. Ça, ça paraît très intéressant. Je pense que les parents ont du mal à accepter, certainement. Mais...
Je crois que... Nous allons... Ah oui, et dans quelle matière est-il bon qu'un enfant soit fort?
Ça m'est égal. Du moment qu'il puisse... qu'il y ait effectivement quelque chose où il puisse être fort et qui lui permette de s'épanouir, d'acquérir, de faire des connaissances, d'être bien dans sa peau finalement. Enfin, ça m'est égal qu'il soit bon en travaux manuels ou en dessin ou en maths ou en français. Du moment qu'il puisse être heureux, quoi.
Nous allons éteindre le...